RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sont avec vous en direct sur RMC, RMC Story, en direct à la radio et à la télé. Si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est l'émission, bien sûr, dans son intégralité, plus tout ce qui se passe pendant les pauses pubs. Et puis là, les GG se sont livrés un petit quiz. Est-ce qu'elles connaissent bien leur capitale mondiale et les départements français? Je vous laisse découvrir ça sur l'appli RMC ou le site internet rmc.fr. Emmanuel Devilliers, Zora Habitant, Flora Guebali. De quoi va-t-on parler dans la deuxième heure des GG? Je vous le dis tout de suite, ce qui va se passer même jusqu'à midi. On va parler des jeunes au travail avec une Alexandre qui a interpellé les grandes gueules à la sortie des locaux ici en recherche de stage. 300 CV il a envoyé, pas de réponse. Sécurité sociale, est-ce que c'est un système trop onéreux et mal géré? Mais d'abord, on va commencer en parlant des incendies avec ces conducteurs qui continuent de jeter leurs mégots par la fenêtre. Oui, c'est un constat hein, que font souvent malheureusement les pompiers lorsqu'ils sont sur des incendies de bord d'autoroute ou de national ou de départemental. Ils disent souvent ce qui se passe, c'est que c'est un mégot jeté par la fenêtre. Alors c'est marrant parce que en le faisant, j'ai encore le geste quand je fumais et je le faisais par la fenêtre. Tu sais, c'est la pichenette, tu finis ta cigarette, tu la coinces entre le pouce et le majeur. Et bim, et tu l'envoies comme ça par la. Alors, en général, tu l'éteins pas, elle part comme ça incandescente. Du coup, jusqu'où doit-on aller? Remettre des cendriers dans les voitures, interdire de fumer au volant, 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Ah,
déjà, il y a un constat, c'est une étude Vinci hein, pour les autoroutes qui montre que 18% des fumeurs reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture. Il y a un autre chiffre qui circule, c'est celui du ministère de la Transition écologique qui estime qu'entre 20 000 et 25 000 tonnes de mégots sont abandonnées chaque année dans la nature en France. Cela représente des dizaines de milliards de mégots. Vous imaginez? Donc ils sont la plupart du temps éteints. Ils ne provoquent pas d'incendie, mais enfin certains quand même provoquent des incendies et on le constate en ce moment. Hein, ces incendies sont pour la plupart de d'origine humaine. Alors soit accidentels avec le mégot, soit parfois malheureusement intentionnels. Il y a des pyromanes qui agissent. Alors qu'est-ce qu'on fait contre ça? On fait des campagnes de prévention. Alors on peut mettre des amendes aussi, mais c'est pas évident parce qu'il faut prendre les gens en flagrant délit. Ou est-ce qu'il faut interdire la cigarette dans la voiture? Alors il y aura sans doute des gens d'accord avec ça. Faut-il mettre des cendriers aussi, parce qu'il n'y a plus de cendriers dans les voitures.
Flora?
Qu'on soit bien clair, les gens qui jettent leurs mégots sont des criminels. On est dans un moment où le réchauffement climatique s'embrase et s'accélère, où il y a des feux encore en cours dans le sud de la France et dans les Pyrénées. La climatisation, spoiler alerte, la climatisation n'empêchera pas les forêts de brûler. Donc les gens qui ont des solutions miracles au réchauffement climatique se rendront compte
ça
que ce n'est pas nécessaire.
Les gens de mourir, c'est quand même pas
et il se trouve que... Non mais je suis totalement pour la climatisation, je l'ai toujours été. Je dis juste que y a le réchauffement climatique, c'est une série de problèmes. Et notamment les forêts qui brûlent. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de voitures le week-end dernier en France. La France est cramée. La pelouse, c'est devenu de la paille. Sur tout le territoire, il faut aller se promener en voiture pour voir de quoi on parle. Non seulement les récoltes agricoles vont être chaotiques, mais surtout, la biodiversité va être de plus en plus menacée. Et la biodiversité, c'est pas qu'on veut protéger les jolis canards, c'est qu'on en a besoin pour respirer et pour survivre. Les feux, ils se déclenchent principalement avec les mégots. Ils se déclenchent aussi avec les bouteilles. Ils se déclenchent aussi avec les bouteilles en verre que les gens jettent, une bouteille de bière par exemple, qui fait un effet avec la chaleur et le soleil. Toutes les mesures, je suis très sérieuse quand je dis ça, qui permettent d'empêcher de brûler un hectare de forêt sont bonnes à prendre. Donc s'il faut interdire les gens de fumer en voiture, voire interdire le tabac tout court, si j'étais députée, je voterais pour, sans aucune hésitation. et je pèse mes mots. Et en fait, ceux qui ne comprennent pas que les mesures pour notre survie doivent être radicales, parce que si on chauffe à plus 3 degrés, on
punitif,
a encore envie. Si, non, radical. Si on chauffe à plus 4 degrés, là, ce sera punitif. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'humanité.
Mais je sais, c'est ta donc, façon de faire. Toi, tu culpabilises les Français.
Pas ma façon.
On voit bien que ça marche.
J'essaye juste de prendre conscience.
Je crois que c'est très
de faire
efficace.
Prendre conscience les gens. En fait, là, c'est comme
les
si
gens
on avait.
Ont plus conscience,
en fait,
mais
là,
les culpabilisantes, en fait, ça sert
là,
à rien.
C'est comme si on avait un cancer du poumon en phase terminale et qu'on se demandait s'il faut fumer 2 paquets par jour ou 1 paquet par jour. À votre avis, c'est quoi la réponse?
Non, mais je pense que la prise de conscience écologique, elle est pédagogique. Quand on voit les petits, moi j'ai 5 petits-enfants, ils ont baigné là-dedans. Donc ils sont faits de plein de choses. Ça fait partie de leur environnement. Donc ils font attention à l'eau, ils jettent pas par terre. Ils ont des connaissances assez incroyables. Malheureusement, on pourra pas être dans chaque voiture, on pourra pas vérifier chaque conducteur s'il est en train de fumer ou pas.
On vérifie bien la
ceinture
de sécurité.
Mais je pense que si on optait pour une écologie participative, c'est-à-dire que si on incluait tous les gens de manière très pédagogique et de manière et en plus en arrêtant de les taxer au passage en général pour à chaque fois pour leur demander de l'argent sous couvert de l'écologie, parce que ça laisse des traces et ça a surtout rendu les gens méfiants. Mais quand on explique aux gens les phénomènes et qu'on est un peu plus participatif et pédagogique en disant que la Terre est notre bien commun à tous et que ce qui peut se produire, voilà qui va le payer autour de nous, c'est pas pareil que de punir systématiquement et de dire t'achètes ça, tu payes, tu consommes ça, tu payes, tu fais ça, c'est interdit. Non, c'est de dire que finalement, comme avec les enfants, c'est presque pareil. Or, aujourd'hui, l'écologie, elle est que punitive. Elle n'est pas participative.
Non,
il faut la rendre participative.
Moi, je voudrais vous mettre tous et toutes d'accord. C'est beaucoup plus concret. Et je reviens sur le propos d'Olivier. La dérobade d'avoir enlevé les cendriers dans les voitures, voilà le responsable.
Bah oui, c'est une erreur.
Voilà le responsable, parce que celui qui fume, comment peut-il faire? Il faut qu'il s'arrête, c'est très compliqué, c'est dangereux, on va lui reprocher de s'arrêter.
Avoir un petit cendrier portatif.
Oui, mais ça, c'est dangereux aussi. Non, c'est le fait qu'il n'y ait plus de cendriers dans les voitures. Après, effectivement, si vraiment il y a des zones maintenant qui sont accidentogènes en termes d'incendie, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une interdiction saisonnière et déterminée géographiquement? C'est effectivement possible aussi.
Tu jettes pas
alors,
top,
je regarde,
même l'hiver.
J'ai un copain qui est fumeur encore dans sa voiture. Et tu sais ce qu'il fait, c'est les mini-canettes.
Oui. Mmh.
Tu sais, voilà, les mini-canettes avec l'ouverture, et puis il a transformé un cendrier, bon. Et du coup,
mais oui, il y a une façon,
un cendrier de poche, ça coûte entre 3 et 5 euros.
Bah oui,
il y a les petits cendriers de poche.
On va demander. Non, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup.
Parce que
alors, attendez, les GG.
Attendez,
oui, mais
des mesures liberticides, toi, tu choisis les
mesures. Va mettre une clope dans un cendrier de poche en roulant, c'est très dangereux.
Au GG, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de personnes qui sont sur la route, qui nous écoutent, puisque c'est les horaires où les gens qui sont sur la route écoutent la radio. Et les gens qui sont sur la route, écoutez-nous. La survie de notre humanité dépend de votre clope. Voilà, c'est ça le message.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat, il y a soit des solutions pratiques, à savoir, voilà, on remet des cendriers dans les voitures, on a son petit cendrier de poche, voilà. Et soit des mesures liberticides. Et qu'on a trop tendance, parce qu'on se dit c'est plus simple en France, de prendre des mesures liberticides et interdire les gens de fumer, voilà. C'est liberticide quand même.
Et on n'a plus les solutions concrètes parce qu'on est allé sur l'idéologie.
Nicolas, notre ami pompier dans le Rhône. Bonjour Nicolas.
Ouais, salut les GG, comment ça va?
C'est vrai que c'est un fléau le mégot, Nicolas.
Pardon?
C'est un fléau le mégot.
Mais bien sûr que c'est un fléau le mégot, ouais, c'est sûr. Mais le problème, c'est souvent, c'est pas les gens qui résident dans les zones impactées. Hein, les gens qui résident là-bas, ils sont, comment dire, ils sont sensibilisés au risque. Mmh. C'est les gens qui sont de passage. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une solution qui est simple pour les pyromanes, hein, savoir ce qu'on en fait. C'est bien beau de punir, mais il faut punir. Ça sert à rien de leur mettre des peines de prison. Moi, je pense qu'il faut les envoyer sur le terrain, traiter les lisières avec les pompiers là, pendant des journées entières, aller gratter les souches et tout, voir ce que c'est, on se rendre compte, et puis faire du débroussaillage en préventif. Voilà. Faut les impliquer. Voilà.
Les attrape, Nicolas, parce que celui qui jette son mégot par la fenêtre avant de l'attraper, c'est plus compliqué, quoi, Nicolas.
Ah oui, faire un grand délit. Bien évidemment. Mais quand on les a attrapés, je pense qu'il faut leur montrer l'impact que ça
tu
a.
Tu vas chercher l'ADN sur le mégot.
Ouais.
Tu peux, ouais.
Non, c'est pas évident, mais quelquefois on a des
Nicolas, vous êtes capable, vous, en tant que sapeur-pompier, lorsque vous essayez de trouver la cause de l'incendie, de retrouver effectivement précisément un mégot et se dire, tiens, c'est ça qui a déclenché l'incendie?
Bah là, nous, c'est pas trop notre ressort, c'est plutôt les enquêteurs hein, qui font ça. Mais après, le point de départ de feu, il est souvent facilement repérable. Mais après, sinon, hormis ça, les indices, c'est plutôt les services des forces de l'ordre qui s'en occupent. Et qui font voilà, qui remontent les pistes. Enfin, quelquefois il y a des vidéos, il y a des photos. Là dernièrement, on voyait des gens sur les réseaux hein, qui envoient des photos d'une voiture devant eux avec des gens qui ont jeté des mégots. Enfin,
ouais. Ça, c'est vrai.
Il y a des témoins.
Ouais, il y a des gens qui sont irresponsables, effectivement.
Nicolas, bon courage sur le terrain des incendies en ce moment à vous, à tous vos collègues. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Salut, à bientôt Nicolas. Laurence veut réagir, elle est du côté de la Haute-Garonne. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Vous êtes témoin, vous, de temps en temps, de gens qui jettent les mégots par la fenêtre?
Il y a pas le matin quand je pars travailler. Or, j'habite un peu la campagne, donc j'ai des champs secs en ce moment, trop de loin. Et pratiquement tous les matins, il y a un automobiliste, ou une automobiliste, je ne sais pas, qui jette son mégot par la fenêtre. Alors, le problème du cendrier, je n'y crois pas trop, parce que les gens ne l'utiliseront pas. J'en suis convaincu, on pourra le salir, le presser, c'est fatigant de le vider, etc.
Quand il y en avait, on l'utilisait. Quand les gens fumaient plus et qu'il y avait des cendriers.
Moi, je fumais, je ne l'utilisais jamais. Voilà.
Ah bon, vous jetiez par la fenêtre?
Et non, parce que genre, je fumais dans les embouteillages, donc je l'ai écrasé. J'avais une petite boîte.
Mais Laurence, je vous pose la petite question vérité, puisque vous dites tous les matins, moi, je vois des gens qui jettent les mégots par la fenêtre. Est-ce que vous pourriez prendre leur plaque d'immatriculation si jamais le feu déclare en photo?
Non, parce que je serais pas
capable
de prendre la photo.
Ah oui, avec le portable. Ou alors la noter. Noter la plaque, la retenir.
Non, mais on a oublié un truc dans ce pays, c'est qu'on est capable de faire des vidéos pour dire aux gens, en pleine canicule, buvez, hydratez-vous, mettez-vous au frais, etc. Et en fait, on a oublié plein de communication, de répétition, qui pourrait être utile, à la fois, je pense à la santé, mais à la fois sur l'écologie. Tu fais une vidéo et tu racontes comment un mégot passe de la fenêtre de chez quelqu'un et ce qu'il produit. Ben, je vais te dire, tu balances ça toute l'année, tout le temps, tu vas voir, celui qui va balancer le mégot, au bout d'un moment, il va se dire, oh merde, le mégot que je suis en train de balancer, il va faire ce chemin. Et en fait, le problème en France, c'est qu'on a oublié, on fait des trucs totalement débiles. Buvez de l'eau, hydratez-vous, allongez-vous
au frais.
Voilà. Mais en fait, prévention santé, prévention écologie, prévention drogue, etc., tabac, plus personne ne fait rien. Il ne se passe plus rien.
Mais c'est pour ça.
Alors que honnêtement, oui, mais... si tous les jours, on te balance une vidéo qui passe sur TikTok 500 fois et que tu vois, tu dis merde. Putain, le mégot que je viens de balancer là, le chemin qu'il a fait, il a cramé une rue, il a cramé là, il a cramé des maisons, etc. Crois-moi, même si ça fait effet sur, allez, 70-80% des gens, t'as gagné. Alors que l'écologie, c'est tous les jours, on nous dit, consommez moins.
Non mais tu es naïve, Zora, les gens qui balancent leur mégot comme ça, ils savent très bien qu'il ne faut pas le faire.
Regarde le recul du tabac, regarde les gens fument de moins en moins.
Parce que les gens ont compris que c'était mauvais pour leur santé.
Pourquoi? Parce qu'il y a de la prévention.
Les gens balancent comme ça.
Non, alors Laurence, on va écouter Xavier qui est dans l'Allier. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette inconscience quand on jette un mégot par la fenêtre en zone à la campagne, hein, bien sûr, essentiellement.
Bah déjà, moi j'en dis qu'en préambule, il y a un truc qui m'énerve fortement ces derniers temps. Moi, je suis écolo, hein. Donc je suis chez les écolos. Voilà, j'ai une carte. Voilà, je participe à la vie interne, machin. Faut arrêter de dire que tout est de la faute des écolos et que tout est punitif. Ce qui est punitif, c'est le réchauffement climatique. On en paye tous le prix. Moi, je vais vous dire, hein, j'habite dans un HLM, j'habite au dernier étage. C'était intenable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une clim. J'ai pas eu le choix. Donc faut arrêter de dire que les écolos sont hors sol, ils vivent pas dans la même société que tout le monde. Les écolos, il y a 30 ans, alors moi je suis dans ce parti depuis 2019, hein. Les écolos, il y a 30 ans, ils l'ont dit qu'il fallait passer au train, qu'il fallait arrêter de mettre du béton, qu'il fallait planter des arbres,
Il y a
30 ans qu'ils l'ont dit, bien sûr.
Oui, d'accord, et dans les faits, c'est comment?
Le problème, c'est qu'en même temps, ils voulaient enlever le nucléaire. Or, heureusement qu'on a le nucléaire.
C'était
des choix importants quand même.
Il y a eu des choix importants, mais déjà, si on aurait fait tout ça.
Heureusement qu'on n'a pas suivi l'exemple allemand.
On aurait eu besoin de moins d'électricité. Et après, il y a quand même un sujet. Alors moi, nucléaire, on peut pas s'en passer pour l'instant, c'est clair. Et on l'a dit, il faut au moins 30 ans avant de faire la transition. Mais il y a quand même des questions, le nucléaire. Ils sont refroidis à l'eau. Toutes celles qui sont sur les fleuves, il va y y avoir
d'accord,
des problèmes,
mais il n'y a pas une énergie qui ne pose pas de problème. Après
oui, oui,
celle qui est aujourd'hui. La plus rentable,
c'est la nucléaire. Ce que je voulais dire, c'est que planter des arbres, c'est pas insurmontable. Casser du béton, c'est pas insurmontable. Prendre le train, c'est pas insurmontable. Non. Et ça, on aurait commencé il y a 30 ans, on serait pas dans cette merde.
Alors,
arrêtez de nous emmerder avec la voiture électrique aussi.
Non, mais moi, je préfère prendre le train.
Nucléaire aussi.
Je préfère prendre le train, moi.
Mais c'est vous.
Le train qui ne fonctionne pas.
Regardez la gare de La Rochelle, par exemple, qui a été faite. Une esplanade immense, sans arbres. Il fait 50 degrés quand il y a la canicule.
Et alors, c'est pas les écolos qui l'ont faite, la gare. Et bien d'accord. Sûr qu'il y a des conneries de faites.
Paris, c'est
l'hôpital,
pareil.
L'hôpital de Tours, il y a un hôpital flambant neuf. À Tours, flambant neuf, 250 millions d'euros de budget. C'est la mairie écologiste qui a voulu que cet hôpital ne soit pas climatisé. On nous dit qu'il sera ventilé. Mais quand il fera 50 degrés, vous verrez qu'on regrettera de ne pas avoir climatisé cet hôpital. Donc il y a eu des choix coûteux, 250 millions, et idéologiques. Aujourd'hui, on a perdu du temps. Bien sûr que ce sont les écolos qui ont été des lanceurs d'alerte. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est eux qui alertaient sur le réchauffement climatique. Mais sur les solutions, ils ont souvent quand même été à côté de la plaque.
Xavier, on va regarder. On a posé la question incendie, jeter son mégot par la fenêtre, interdire la cigarette en voiture. Est-ce que c'est la solution? Vous dites oui à 54%. Ouais, pardon, ouais. En fait, on est sur un 55-45. Tiens, les vacances, faut pas les oublier quand même, les vacances bel en bras. Le séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et dans les hôtels, tout compris premium, où vous êtes chouchouté, pris en main comme des coqs en pâte, et on s'occupe même des enfants si vous partez en famille et que les enfants peuvent pas s'assumer tout seuls. Donc envoyez vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16, c'est un choix dans le catalogue bel en bras. Vous regarderez si vous préférez partir à la mer, à la montagne ou à la campagne, c'est pour vous. Et le tirage au sort du gagnant tout à l'heure à 11h20. En attendant, dans un instant, de quoi va-t-on parler avec les GG, avec les grandes gueules, la sécurité sociale. Il y a une étude intéressante. Les Français trouvent qu'elle coûte trop cher et qu'elle est mal gérée.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules au 32-16, bien sûr. Vous venez discuter avec nous, vous venez débattre. Flora Guébel, Isaure Habitant, Emmanuel Devilliers. François Ruffin sera tout à l'heure avec nous à 11h dans son Face au GG. Lui, François Ruffin, là, il parle. Vous savez que si jamais il est élu à l'Élysée, il veut devenir un président au SMIC. Et l'une des premières mesures qu'il prendra, c'est d'enlever tous les privilèges des anciens présidents de la République. Il viendra défendre ça tout à l'heure.
Il dit qu'Emmanuel Macron va nous coûter un pognon de dingue lorsqu'il sera plus président, puisqu'il va quitter l'Élysée, il aura 49 ans l'année prochaine, et que donc on est censé à vie lui financer son train de vie avec un bureau, du personnel, les voitures, la sécurité, etc.
Ah mais il a tout listé, hein.
Et Sarkozy a bénéficié de ça, Hollande. Or maintenant on a des présidents qui quittent le pouvoir alors qu'ils continuent de travailler. C'est-à-dire qu'en fait ils ont double revenu. C'est-à-dire qu'ils ont parce qu'ils font des conférences ou ils ont et on leur paye quand même leur train de vie. C'est vrai que peut-être que Ruffin a raison de dire il faut remettre ça à plat.
En fait. Il viendra en parler avec nous tout à l'heure à 11h. En attendant on va regarder là 10h25. Cette étude sur la perception de la sécurité sociale par les Français. % des Français estiment que le système sécurité sociale coûte aujourd'hui trop cher.
Est-ce que vous connaissez le comité d'alerte sur l'état des finances publiques? Ça a été créé par François Bayrou il y a un an. C'est un comité, on aime bien créer des comités. Alors ça réunit les ministres concernés et c'est pour voir si la France arrive à bien gérer ses finances publiques.
Donc après commissaire au plan.
Alors c'est un comité qui fait le constat que non.
Ils mettent un casque pour se réunir. Là.
Oui, parce que en fait c'est un comité qui va faire le constat. Il se réunit aujourd'hui que non, ça va pas bien puisque les déficits prévus explosent. On avait parlé d'un déficit autour de 5, ça sera au-dessus. Les chiffres ne sont pas bons et donc il va falloir trouver des économies. Et quand on interroge les Français, qu'est-ce qui coûte trop cher? Les Français à 71% dans une étude récente disent que la sécurité sociale coûte trop cher.
Oui.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait?
Enfin, 71%, moi je suis dedans, parce que en fait, l'idée c'est pas de saccager notre système social, c'est de réfléchir correctement ce système social, de lui redonner de l'efficacité. À savoir, par exemple, sur la santé. Sur la santé, je trouve que la prévention, elle est pas assez utilisée. Ça coûte plus cher de se soigner plutôt que de faire le nécessaire pour ne pas tomber malade. Donc, on met rien dans la prévention. Il y a quasiment plus de médecins scolaires, plus d'infirmières, etc. Tout ce qui est aide sociale. Et évidemment que ce qui caractérise la France, c'est la solidarité. Mais la solidarité, elle peut se remettre à plat et être rediscutée. Il ne s'agit pas de la faire disparaître.
Et voir aussi l'efficacité.
Exactement. C'est-à-dire qu'avoir aujourd'hui des jeunes qui sont en très bonne santé, qui vont très bien, qui ont 30 ans, et qui peuvent avoir un sas de RSA, parce qu'ils ont un accident de parcours, ils sont en attente de quelque chose. Pourquoi pas? Mais quand tu t'installes dans un RSA toute une vie...
Oui, mais ça, c'est pas la sécurité sociale.
Non, mais c'est tout ce qui est prestations sociales, c'est pas que la sécu. C'est dans les prestations sociales, il y a tout ça. Et en fait, tout le système social, sécurité sociale comprise, à la fois dans comment tu te soignes, comment t'es aidé, comment on t'assiste et on t'accompagne dans un sas pour que tu retrouves du travail, etc. Tout ça, c'est à revoir, en fait. Alors, c'est ça qui est important.
C'est trop cher.
Et évident que c'est tout à revoir.
Ben
c'est un scandale. C'est là le cœur des dépenses financières de l'État. 500 ou 600 milliards, on n'arrive même plus à exactement les identifier. Soulignons quand même que la sécurité sociale, au passage, c'est 300 milliards d'endettement en progression constante. Malheureusement, la difficulté, pour résumer, d'un point de vue démocratique, c'est que tout le monde est d'accord sur le constat, mais personne n'est d'accord pour aller aux solutions. Or, les solutions, elles sont forcément négatives à un moment donné s'il s'agit de faire des économies. C'est la difficulté de la démocratie, qui est une machine à perdre, hein, telle que nous y sommes parvenus en France, puisque aucune proposition d'intérêt général ne peut avoir l'assentiment de la majorité.
Non, mais Emmanuel, ça te surprend pas, ça te choque pas qu'il y ait un comité d'alerte là-dessus, alors qu'on sait depuis des décennies que c'est un système qu'il faut remettre à plat. Oui, par exemple, sur les affections de longue durée. Sur les affections de longue durée, les gens qui ont eu des cancers pendant 5 ans, t'es en guérison, 5 ans, on t'envoie un courrier, enfin c'est pas mon cas, mais pour pas mal de gens que je connais, on leur dit vous êtes plus pris en charge. Sauf que ces gens-là, quand ils ont eu chimio, rayons, de troubles psychologiques, traumatismes, etc., on leur stoppe tout. Et à côté de ça, on a des examens comme ça, des gens qui vont consommer de la santé comme s'ils allaient chez le boulanger. Et en fait, il faut protéger les plus vulnérables.
D'accord, mais quand tu veux remettre en cause, ici même, je me souviens du débat qu'on avait eu sur les arrêts maladie longue durée, où on estimait que quand on prescrit un arrêt de 3 mois, c'est bien peut-être qu'au bout d'un mois et demi qu'on vérifie si la personne est toujours malade.
Mais oui.
Levé de bouclier, oui.
Mais non, on s'en fout du levé de bouclier.
Vous en prenez aux malades, etc.
Il faut protéger.
En fait, dès que tu veux mettre quelques restrictions de bon sens,
ce qui va se passer, c'est que à force de pas vouloir avoir des restrictions de bon sens, c'est-à-dire que même les gens qui sont très malades, ils pourront même se soigner.
La grosse difficulté aussi d'un mot, c'est que quand on va devoir continuer à réduire les prises en charge de la sécurité sociale d'un point de vue hospitalier, etc., de la médecine classique, on porte atteinte aussi à un équilibre économique, puisque tous ces gens-là sont payés par les fonds publics.
Aussi. En 1945, alors que le pays allait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui, c'est dire, on a dit, à partir de maintenant, il faut qu'on puisse soigner les gens, donc on va créer la sécurité sociale. Donc les gens comme Emmanuel qui nous expliquent qu'on n'a pas d'argent. Les gens qui nous expliquent qu'on n'a pas d'argent.
Je te le confirme.
Toute la journée, à l'époque, on n'avait vraiment pas d'argent puisque le pays était détruit. Il fallait tout reconstruire.
Et bien sûr, les gens travaillaient beaucoup plus. Bon. C'était le début des 30 Glorieuses, etc.
D'accord. Et peut-être qu'on serait capable de travailler plus si on avait un projet de transition écologique, de transition énergétique et de transition sociale qui nous était proposé.
Un projet de gauche, moi je travaille pas.
Oui, enfin moi ça vous aura pas échappé, je suis orpheline politique, donc je me réfère à aucun candidat actuellement. Donc je pense par moi-même, si ça vous dérange pas. Et ce que je pense, c'est que aujourd'hui la sécurité sociale aura raison de parler de prévention. Il y a une étude très sérieuse qui est sortie la semaine dernière et qui montre que une alimentation bio fait baisser de 25% le risque de cancer. Moi personnellement, je mange bio et ça me coûte cher et j'ai de la chance
France, j'ai le pouvoir d'achat de pouvoir le payer. Encore que, hein, c'est cher. Je dis
oui,
pas
mais il y a des chercheurs aussi qui disent que le bio est bio.
C'est pas que la nourriture.
Aujourd'hui, l'alimentation, c'est la plus grande piste de prévention qu'on peut avoir, puisqu'on découvre à quel point elle a un impact sur la santé. Toutes les études scientifiques le disent, c'est pas moi qui l'invente. Donc, si on voulait... je suis d'accord que la sécurité sociale pensée en 1945... Aujourd'hui, elle est critiquable, elle a des défauts, elle est même à certains endroits un peu obsolète. Il faut aujourd'hui un Grenelle de l'environnement, de la santé, de tous les sujets, et penser nos trois priorités. Je pense que la priorité numéro un des Français, c'est la santé. On sera tous d'accord là-dessus, et remettre à plat le système.
Oui, mais on reconnaît que quand on a voulu, c'était dans le budget là, le Cornu, son premier budget, dérembourser les cures thermales, levée de bouclier, c'est de la droite d'ailleurs qui est montée au créneau pour dire non, vous comprenez, parce que ce sont des électeurs.
Oui.
Voilà, et que les cures thermales, ça fait vivre aussi des stations.
Alors qu'on a déjà parlé cette semaine, va pas en cure parce que le type va te dire c'est vous qui voulez nous dérembourser.
Mais oui, non, mais bien sûr, mais il y a toujours une bonne raison pour ne pas dérembourser. Souvenez-vous quand on a demandé aux taxis un effort parce qu'effectivement, beaucoup.
Personne n'a voulu.
Bah oui, mais ça, c'était honteux.
Les taxis sanitaires.
Les gens qui vivent dans des déserts médicaux, je suis désolée. Il y a des gens, ils sont à 2 heures du premier hôpital.
Bonne raison pour ne pas remettre en cause un acquis.
Pourquoi les politiques manquent de courage et prennent pas quand même la décision?
Parce qu'ils veulent être élus, c'est fondamental à la campagne. Mais pardon, à Paris, tu peux rentrer en métro.
Mais oui,
j'ai l'exemple de mon père qui faisait beaucoup d'examens parce qu'il était malade, mais qui marchait très bien et qui pouvait prendre le bus. À chaque fois, il allait faire un examen à l'hôpital. D'ailleurs, c'était souvent des doublons et des triplons, mais comme tout est remboursé, c'est pas grave. On lui demandait, vous voulez pas prendre un taxi? Vous avez le droit à un taxi? Je dis, non, je prends mon bus. Il est direct.
Oui, mais Olivier,
je rentre chez moi.
Moi, j'ai parlé ce week-end avec des femmes qui étaient enceintes par la canicule et qui avaient 90 km pour aller faire leur échographie.
Bien sûr, mais là, tu prends l'exemple où il n'y a pas débat. Je te prends l'exemple.
Mais
la gabegie, elle n'est pas là.
Mais en fait, la gabegie,
elle est là.
Olivier, tu remets en question le principe même d'un système. En fait, on n'est pas capable de faire une règle individuelle pour 68 millions de personnes. C'est impossible. Mais donc, on a besoin de règles.
Mais Flora, quand t'es soignée dans Paris, moi, quand je revenais de la radiothérapie et que j'étais incapable de prendre un métro, ça ne me dérangeait absolument pas de partager mon taxi avec d'autres gens.
Mais oui, mais comment on faisait avant? On allait chercher soi-même.
J'aurais même préféré. Je trouvais ça indécent que je sois toute seule dans mon.
Déjà avant, on mourrait beaucoup plus.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une mesure de bon sens, c'est de te dire, je ne te prive pas de ton transport parce que tu es malade, mais par contre, tu vas le partager, ça coûtera moins cher à la Sécu, et comme ça coûte moins cher à la Sécu, on va continuer à te soigner avec des bons traitements. Donc en fait, c'est ça. Et l'autre, arrête de te mettre en maladie. A dit 3 mois sans qu'on vérifie.
Et les arrêts maladiques explosent.
Tu vois,
enfin, donc, notamment chez les jeunes.
C'est pour protéger les gens qui en ont vraiment besoin. Éric, et si on ne fait pas ça, du coup, on va sacrifier tout le monde.
Éric, infirmier libéral. Bonjour, Éric.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Vous comprenez le mécontentement des Français vis-à-vis de la Sécu ou pas?
Après, je peux comprendre leur mécontentement. En plus, en fait, quand on dit les Français ne participent pas, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Il y a les franchises médicales déjà qui sont appliquées.
Oui.
À part les C2S, qui est l'ancienne CMU, où là, c'est pris en charge, parce que c'est des gens qui ont de faibles revenus, qui pensent d'ailleurs souvent que c'est gratuit, donc je leur rappelle que non, c'est pas gratuit, rien n'est gratuit dans la vie, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, il n'y a rien de gratuit. Donc moi, en fait, je suis payé par quelqu'un quand je vais chez eux, donc par la société. Mais quelqu'un qui n'est pas sous couverture C2S va avoir des franchises sur les médicaments. 50€ par an, on va avoir des franchises sur les visites médicales. 50€ par an, on va avoir des franchises sur les infirmiers. 50€ par an sur les examens de santé. 50€ par an. Et ça, c'est par personne dans le foyer. Donc, vous prenez un foyer de 4, faites le calcul à la fin de l'année. Alors, c'est sûr que la dépense globale aura coûté plus cher à la société, mais il aura quand même participé largement.
Bien sûr.
Les cotisations sociales, etc., etc. Voilà. Donc on peut pas dire que les Français participent pas. Faut arrêter de toujours dire que c'est de la faute des Français. Enfin à un moment,
on dit pas que c'est de la faute des Français. On dit simplement qu'il y a des abus aujourd'hui.
Trop d'abus.
Et le tout, c'est d'arriver à les cibler et à les réduire. Éric, et vous êtes infirmier. Peut-être que vous-même, de temps en temps, vous envoyez. D'ailleurs, je pense que si on arrive à réduire ces abus, peut-être qu'on pourra justement vous, les infirmiers libéraux, peut-être aussi un peu mieux vous payer aussi.
Il y a des consommateurs.
Voilà. C'est tout.
Il y a des consommateurs, c'est vrai. Mais quand je voyais ces orateurs, c'est ça ?
Oui.
Oui, qui parlaient de transport. Alors, on entend dire, les familles peuvent pas les emmener. Mais les familles, elles sont éclatées. Enfin, on dit aux enfants qu'il faut bouger pour trouver du travail. Mais moi, j'ai des gens isolés.
Mais
ils sont seuls. Alors, qui va les emmener ?
Non, mais moi, je parlais pas des familles.
Oui, mais chacun peut un peu se responsabiliser. Je suis désolé. C'est comme la canicule. Il y a eu beaucoup de morts à domicile. Hein. Moi, dans les EHPAD, tant mieux. Ça veut dire qu'on a quand même tiré les conséquences de la première grande canicule. Mais il y a eu beaucoup de morts à domicile. Hein. On dit, oui, mais ce sont les personnes qui sont isolées. Mais attendez, l'État va pas pouvoir, faire boire tous les gens chez eux, isolés. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi, quand on a des personnes âgées dans sa famille, on s'en occupe. Quand on a une voisine ou un voisin âgé, on peut aller le voir, lui demander si tout va bien, etc. Enfin, moi, je pense. Non, mais je veux dire, dans ce pays d'assister, à un moment donné, il va falloir aussi que chacun se prenne un peu par la main et qu'on se responsabilise. Parce que l'État sera toujours défaillant dans ce cas-là. On reprochera toujours à l'État un mort de trop.
Je ne dis pas qu'il y a de défaillance de l'État. Moi, ce que je vois, c'est que dans l'entourage et dans les gens que je soigne, enfin, même les gens isolés, mis à part les transports, enfin, les voisins sont là. Hein. Enfin, ça marche comme ça au quotidien.
Mais il y a beaucoup de solidarité à la campagne, d'ailleurs.
Ah, énormément, oui.
Et je vais vous prendre un exemple, Eric, là, parce que j'ai une amie infirmière qui vient de m'envoyer un petit SMS. Elle me dit, ouais, j'avais justement une discussion à propos des remboursements sur le matériel orthopédique. Un simple réhausseur de toilette vaut 22 euros. Il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, alors que la chaise percée vaut 100 euros et elle est remboursée. Ouais. Et elle me dit, moi j'ai un patient, il voulait la chaise percée parce qu'elle était remboursée. Ouais. Il ne voulait pas sortir les 20 euros de sa poche pour le réhausseur, alors que le réhausseur convenait. Elle dit ça, c'est des petits coups qui font finalement,
on creuse le trou de la Sécurité sociale. C'est comme les enfants, comme il n'y a plus de médecins et d'infirmiers scolaires comme à l'époque.
Il n'y a plus de pédiatres.
Vraiment, voilà. C'est-à-dire que permettre à des enfants d'avoir des semelles orthopédiques parce que tout petit, en primaire, on découvre qu'ils marchent mal, et ainsi de suite, pour pas que ça se dégrade dans leur santé avec des problèmes de dos, de hanches, de scoliose, et la vue, l'ouïe. Moi, ma petite fille, on a découvert qu'elle était sourde. Elle avait 11 ans. 11 ans. C'est-à-dire que c'était une gamine qui avait des problèmes à l'école, ça marchait pas, et jusqu'au jour où on nous a dit, en 6e, elle allait en SECPA. On a refusé, enfin les parents ont refusé.
Elle est appareillée aujourd'hui.
Et elle est appareillée, mais l'école, depuis le CP, a pas vu. C'est-à-dire qu'elle était toujours.
Elle avait des problèmes d'audition.
Elle a 40% de sourdité une oreille. Donc forcément, t'es à la rue, quoi. Et donc, comme t'es à la rue, l'école, au lieu d'avoir un médecin qui fait comme avant, la vue, l'ouïe, machin, on te mesure. Mais le truc bidon, une prévention. Ouais, mais
elle avait un pédiatre aussi. Ton pédiatre, il s'en est pas aperçu.
Mais non.
Et le médecin généraliste
non
plus.
Mais non. Mais ils ont mis un peu de temps à comprendre. Ils pensaient qu'elle parlait fort. Tu vois?
Il faudrait, Alain, expertiser ton anecdote parce que je pense que le réhausseur est au-dessus de la chaise percée.
Le réhausseur on va avoir un grand débat sur réhausseur et chaise percée.
Si mon père était handicapé, là, je crois que.
Là, mais simplement, le réhausseur, tu poses sur les toilettes et la chaise. La chaise coûte plus cher que le réhausseur.
Oui, mais, non, je pense que les deux sont associés, potentiellement.
Ah, ben là, c'est pas ce que me dit cette amie infirmière. Bon, on va vérifier ça. Réhausseur, chaise percée. Merci, Eric, d'avoir été dans les GG. Sécurité sociale, est-ce qu'elle nous coûte trop cher, oui ou non? Vous mettez oui, on est exactement sur le même étiage, à plus de 70%. Dans un instant, cet étudiant qui avait interpellé les GG là, à la sortie du bâtiment, 300 CV, il a fait des études de commerce, de finance, 300 CV pour trouver un stage, pas de réponse. Est-ce que c'est vraiment la galère pour les jeunes qui cherchent des stages? Il est 11h20, vous en parlez avec nous au 32-16.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Les Grandes Gueules vous accueillent tous les jours de 9h à midi sur RMC, la radio et RMC Story, la télé. Aujourd'hui, Zora Bitan qui est avec nous, Emmanuel Devilliers, Flora Guebali. On va parler des jeunes, de la difficulté des jeunes en sortie d'études à trouver un stage. Pourquoi? Parce que j'ai été abordé juste à la sortie des locaux d'RMC et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un jeune homme en costume qui était là, Monsieur Marchal, là, fin d'après-midi, alors qu'Olivier et moi, on sortait de BFM TV. Je voudrais vous parler, je suis étudiant, école de commerce, j'ai fait des études aussi dans la finance, et j'ai envoyé mes CV. J'ai dit, faites-moi une vidéo et je vous promets qu'on en fait une petite discussion. Il s'appelle Alexandre, la vidéo, la voilà.
Bonjour les GG. Après 300 candidatures, entre réponses aux offres et candidatures spontanées, je m'en remets aujourd'hui à la force de frappe de vos auditeurs. Étudiant en finance, je recherche activement un stage de 6 mois dès juillet. Mon objectif, travailler en salle des marchés. Si un professionnel des marchés m'écoute et souhaite donner sa chance à un profil très déterminé, n'hésitez pas. J'attends de vos nouvelles.
Alors, il a fait, il a un beau parcours, effectivement. Oui. Il a envoyé son CV. Et puis, je me suis dit, quand on a préparé l'émission, finalement, il est le symbole aujourd'hui de tous ces jeunes qui sont dans le sas le plus compliqué. C'est-à-dire, tu sors de tes études, tu veux te lancer dans la vie active, mais tu as ces stages pour arriver à comprendre ce que c'est. Et lui, il cherchait en finance. 300 CV, aucune réponse.
Est-ce que vous savez que la France est le pays de l'Union européenne où la proportion de 15-24 ans à la recherche d'un emploi a le plus fortement augmenté en 2025? Elle dépasse aujourd'hui les 20%. Alors que nos voisins, la tendance est à la baisse chez nos voisins. Je citais l'Espagne, l'Italie, la Pologne ou encore la Grèce. Eh bien, en France, le chômage des jeunes progresse. Et c'est pas nouveau. Non. En fait, ça fait très longtemps qu'on a un problème avec l'emploi de nos jeunes. C'est un défi qui ne date pas d'hier. D'ailleurs, j'ai retrouvé tous les dispositifs que les gouvernements successifs avaient mis en place pour les jeunes. Ça a commencé, par exemple, en 77, il y avait le premier pacte national pour l'emploi des jeunes. Ensuite, on a inventé les missions locales en 82. Il y a les TUC. Souviens-toi, toi, tu as des TUC.
Travaux d'utilité collective.
Voilà, c'était en 84. En 90, on a inventé les contrats emploi solidarité. En 94, c'était le CIP. Le contrat d'insertion professionnelle.
Il y a eu le SIVP.
Bon, qui a duré que 3 mois, parce qu'il y avait tous les jeunes dans la rue. Il y a eu les emplois jeunes, bien sûr, en 97. Le plan Espoir banlieue en 2008, les emplois d'avenir en 2012, la garantie jeune en 2016, et le plan Un jeune, une solution en 2020. Donc, on invente des choses, et on a toujours ce défi qu'on n'arrive pas à relever.
Oui. Non, mais moi, je fais de l'insertion des jeunes, et je peux vous dire que ce pays,
il est super diplômé, le jeune.
Oui, oui,
hein.
Non, mais c'est-à-dire qu'eux, ils sont concernés aussi. C'est-à-dire qu'en France, quand vous regardez les débats politiques, le débat public, le débat tout court. Est-ce que les jeunes sont souvent invités dans les échanges et les débats? Jamais. On parle de retraite, de fin de vie, d'arrêt de maladie, d'études, machin. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se pose et on parle à cette jeunesse, on l'entend, on l'écoute, on trace un chemin avec elle, on trace l'avenir, on écoute ses solutions. Personne parle des jeunes, c'est un truc de dingue. Alors qu'il y a du diplômé jusqu'aux jeunes qui sortent du système scolaire, il y a une force vive incroyable dans ce pays qui attend juste que la société lui tende la main, à la fois dans les stages, à la fois dans les formations, à la fois pour les repêcher quand ils ont échoué quelque part. Enfin, si on peut appeler ça échouer, parce que pour moi, je leur dis que c'est pas un échec, c'est juste qu'ils vont changer de chemin, etc., etc. Dites-moi, quelle est la personnalité politique qui a mis dans ses priorités la jeunesse? Personne. Donc, ce Alexandre fait pas partie d'un projet de société. Il est à part. Il fait pas partie d'un projet politique. Il est à part. Et donc, ce n'est pas normal que ce jeune croise Alain et que c'est la société civile à chaque fois qui doit se mobiliser parce que on a tous envie de tendre la main à un jeune.
Emmanuel.
Moi, je suis directement concerné parce que j'ai un fils qui s'appelle Edouard, qui a 23 ans et qui est exactement en ce moment dans la recherche de stage avec un envoi pulvérisé de centaines de CV. J'ai pris la décision de ne pas l'aider par des relations, etc. Ça a pu être le cas pour des petits stages avant
d'être quel domaine.
Et j'ai pas voulu faire jouer un réseau parce qu'à un moment donné, faut se jeter dans la piscine tout seul, faut tracer sa voie tout seul, acquérir son expérience par ses propres moyens et sa propre volonté.
Parce qu'on était un peu avec mon épouse,
En attente et voire angoissée de ce que ça pouvait donner, tellement c'est difficile, conformément à l'exemple qu'on vient d'illustrer. Elle m'a surprise, il s'est débrouillé, il a un premier des entretiens, première demande, et là il est un peu, il croule sous le, il est comme l'âne de Buridan, il sent savoir, il dit selon ça je veux pas le faire, je suis accepté. Je lui dis fais attention parce qu'à force
il faut pas
courir 50 mètres à la fois, et il est même au final, ça va faire plaisir à Olivier Truchot, il est même au final potentiellement pris au PSG. Ouais,
parfait. meilleur employeur.
Non mais
Emmanuel Peu qui est entrepreneur, chef d'entreprise, est-ce qu'il y aurait pas quand même une obligation de répondre au moins aux demandes de sage? Parce que ce que dit ce jeune, c'est que il envoie des CV mais personne ne lui répond.
C'est totalement anormal de pas répondre. Moi, j'ai toujours pris soin dans toute ma carrière de veiller avec notre équipe de secrétariat à ce que chaque personne, même si la demande est loufoque, ait systématiquement une réponse, et une vraie réponse, une réponse personnalisée, et dans toute la mesure du possible, une acceptation.
De respect. Pour le respect.
Parce que, mes réponses sont toujours formulées dans le sens d'un encouragement.
Oui.
De dire ok on peut pas mais vous allez y arriver, etc. Et a fortiori même dans les entretiens si on peut pas garder la personne favorablement.
Flora,
Alexandre n'est qu'une victime collatérale de l'IA. Enfin, c'est évident qu'un junior en finance, avec l'intelligence artificielle, il n'y en a plus besoin. Et dans le capitalisme financiarisé dans lequel on est, l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle du cost killing, c'est-à-dire des économies. Donc tout ce qui... En fait, on regarde un tableau Excel, on regarde pas des humains, et on coupe les dépenses. Est-ce que la machine à café gratuite, elle sert à quelque chose? Ben non, les gens, ils ont qu'à se payer leur café, hop, on l'enlève. Ça, à la limite, ça va. Est-ce que les juniors, ils servent à quelque chose à l'ère de l'intelligence artificielle? La réponse est non. Parce que, pourquoi? Les juniors, on passe beaucoup de temps à les former en entreprise, on passe beaucoup de temps à les aider, mais en même temps, c'est ça qui est magnifique. C'est comme ça qu'on transmet, c'est comme ça qu'on crée du lien, c'est ça qui rend fier des milliers de managers dans notre pays, c'est de dire, moi, j'ai des petits jeunes et je les forme. Alors, un jeune en boulangerie, il est toujours utile, parce que qu'est-ce qu'il lui apprend, son patron? Il lui apprend à faire des choses manuelles. Un jeune en finance, il n'est plus utile. Et ça, c'est la vérité. Et donc, quand Zora, elle dit que les jeunes n'ont jamais été aussi absents du débat public, non seulement elle a raison, mais à l'ère de l'intelligence artificielle.
Encore pire.
Ça devrait être c'est le premier sujet, puisqu'il n'y a pas un jeune qui va trouver du travail. Donc, je ne sais pas qui est à la manœuvre pour masquer les chiffres du chômage. Cette personne est brillante, puisque moi, j'en entends pas parler. Or, j'imagine que des jeunes comme Alexandre, il y en a plein. Et heureusement qu'au GG, on va chercher des témoignages, parce qu'on ne verrait pas aujourd'hui un rapport nous expliquer ça. Urgence intelligence artificielle. Il y a une présidentielle dans 9 mois. Je ne sais pas ce qu'on va faire de nos jeunes. Donc il n'y a qu'une solution, c'est le revenu universel.
La vague qui va déferler.
Je vais dire le mot revenu universel. Il y en a au moins deux qui vont se mettre à me hurler dessus. Mais juste avant de leur passer la parole, entre eux. Le chômage, l'intelligence artificielle, les vagues de canicule, le fait que les aides administratives, il y en a dans tous les sens. Vous dites qu'il faut remettre à plat la sécu. Bah là, les aides, on sait plus qui a quoi, on sait plus pourquoi on paye. En fait, il y a une solution, on donne 700 euros à tout le monde. Ceux qui veulent travailler en plus, ils font ce qu'ils veulent, même on défiscalise un peu. Ceux qui veulent pas travailler à des moments de leur vie parce que ils sont en congé mat, ils sont en retraite, ils veulent s'occuper de leurs enfants, ils sont jeunes, ils veulent voyager, ils font ce qu'ils veulent aussi.
Alors, tu nous as désigné, mais je donne l'entièreté de mon temps de parole à Olivier Truchot.
Sur les 700 euros.
Non, sur le revenu universel.
La déferlante de l'intelligence artificielle, c'est un tsunami.
Ça, c'est vrai.
Je crois que la classe a raison. La classe politique ne mesure pas ce qui va nous arriver. C'est une dinguerie.
Bah oui, la classe politique.
Moi, je suis à la campagne. Il y a les jeunes, ils sont plombiers, artisans, menuisiers. Ça bosse. Mais la vague qui va arriver, je crois qu'ils ont.
On a Romain qui veut intervenir.
Internet, c'était de la rigolade à côté.
Oui. Romain veut intervenir dans la discussion. Romain, qui est responsable dans l'informatique, il est dans l'Hérault. Bonjour Romain.
Bonjour.
Que pensez-vous de ce jeune là qui a envoyé 300 CV? Est-ce qu'il est représentatif de ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Moi, actuellement, dans la situation où je suis, j'ai deux apprentis qui me disent qu'ils ont galéré pour toutes les entreprises. J'ai aussi eu dernièrement deux stagiaires de fin de cursus en première année, des stages de 8 semaines. Ils ont envoyé des CV dans tous les sens, ils n'avaient pas de réponse, et ça ne marche que maintenant par les connaissances.
Le réseau, le piston.
Tout à fait, il n'y a que ça.
Et vous savez pourquoi, justement, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, pourquoi les responsables politiques n'en parlent pas? Parce qu'ils ont des enfants, on pourrait dire.
Oui.
Mais parce que leurs enfants... ils auront le bon réseau.
Mais oui.
C'est-à-dire que si t'as le bon réseau, tu débrouilles, tu finis par trouver un stage.
Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a autre chose. Il y a le fait aussi que l'apprentissage et les stages en entreprise ne sont pas mis en évidence, en valeur par rapport à l'éducation nationale.
Dans l'école, oui.
On parle pas des jeunes tout court.
Il y a un décalage incroyable. Moi, quand je vois ce qu'ils font, parce que j'aime bien faire du tutorat après les gamins, j'aime bien les faire monter. Et quand je vois, donc je m'intéresse à leurs cours, je vois ce qu'ils ont en cours, ça me fait très peur. Quand je vois qu'ils ont des heures de cours vacants parce qu'il n'y a pas de prof, ou bien qu'on leur fait des cours d'IA qui ne ressemblent à strictement rien du tout, donc on leur fait des cours. Ouais, écoutez, en BTS, les mecs, ils sont pas capables de faire une phrase de 10 mots avec sans faute. Il y a un problème avec l'école.
Le pire, c'est la classe politique, comme disait Olivier, qui, elle, se sent protégée dans un couloir privilégié où ses propres enfants, mais ils sont censés... travailler, en tout cas être investi pour l'intérêt général. Le mot jeune, jeunesse, France, avenir, défi, il n'existe même pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas du tout dans le débat politique. On parle un tout petit peu de l'école, de savoir lire, compter, écrire, mais c'est tout.
Romain,
juste un truc. Romain, il dit un truc très juste. Il dit que les profs aujourd'hui, ils sont absentéistes, ils sont en burn-out, ils en peuvent plus, ils font des arrêts maladie prolongés, etc. Il y a aussi une solution avec le revenu universel, c'est que on parle sans cesse de rehausser le salaire des profs. Bah, quid de gagner 700 euros par mois? Et bah, figure-toi que ça coûte le même prix que toutes les aides sociales réunies. C'est dans toutes les études du think tank de Gaspard Koenig.
Dans un instant, François Ruffin avec les grandes gueules. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.